Je vais vous dire d'abord salutations à tous. J'en ai salué quelques-uns qui sont rentrés. Je découvre des nouveaux visages, bien sûr. Je ne vous connais pas tous, mais je vous remercie d'être là, non seulement pour moi, je crois que vous êtes venus pour d'autres raisons, mais certains d'entre nous sont sans doute venus ici par amour, par amitié pour moi, et pour entendre ce qui s'est passé dans ma vie par rapport à Dieu. Donc je les remercie d'être venus. Et je vais dire vraiment que je suis très heureux, parce que nous sommes dans une communion fraternelle de deux églises. Je ne sais pas s'il y a d'autres églises que l'Anversar et l'Hélène ici, cet après-midi. Oui ?
La réconciliation.
Alors donc, oui, la réconciliation. Christian de la Roque, c'est le Daras, quelque chose comme ça. Hein. Bien ça. Hein. Donc voilà, trois églises.
Wascal,
ok. Donc, Assemblée de Dieu.
Oui.
Eh bien, au nom du pasteur Jean-Pierre, je vous souhaite la bienvenue. Nous sommes heureux d'être, ça fait quatre églises, nous sommes réunis et ça forme une communion fraternelle inter-église, ce qui n'est pas sans valeur non plus et sans intérêt. Donc je me réjouis pour ça, je me réjouis aussi, je suis heureux parce que je suis un enfant de Dieu et je me réjouis de la lutte que Dieu a dû produire pour m'arriver, pour me faire arriver, pour m'amener à ce que je suis aujourd'hui. Quand on pense à certains couples qui ont du mal à avoir un enfant, quelle joie pour eux quand finalement les deux cellules se fondent en une seule. Et c'est ce qui se passe aussi quand on rencontre le Seigneur. Et je suis heureux aussi parce que Dieu sera glorifié à travers nos témoignages. Le mien, mais aussi celui d'origine. Je pensais aussi, en faisant mon témoignage, que tout comme mon épouse, Régine n'est pas une jeune fille, quelqu'un qui a connu l'Évangile à travers sa famille, mais le Seigneur est allé la chercher parce qu'il fallait une femme à notre frère Jean Pira, et il a choisi non seulement quelqu'un qui ne connaissait pas du tout ce genre de réunion, qui ne connaissait pas la Bible, et nous allons découvrir justement son témoignage tout à l'heure, pour non seulement en faire une chrétienne, mais une femme de pasteur. Donc ça nous réjouit beaucoup aussi de cela. Et voilà, parce que nous savons qu'à travers le témoignage, le Seigneur peut nous édifier, nous les chrétiens qui ont l'habitude, quelquefois un petit peu pris par l'habitude justement d'entendre beaucoup les mêmes choses. Renouvelons-nous, et même si nous entendons certaines choses que nous avons déjà entendues, ouvrons nos cœurs quand même, pour que nous soyons édifiés, et puis s'il y a quelques personnes parmi nous qui sont au début, qui sont venues que quelques fois, ou pour la première fois, qui n'ont pas pris leur baptême encore, qui commencent à découvrir l'Évangile, eh bien nous espérons que ça va contribuer, nos témoignages, à ce que ces personnes fassent comme nous, c'est-à-dire acceptent le Seigneur Jésus dans leur vie, et deviennent des chrétiens authentiques, des chrétiens bibliques. Heureux aussi de la présence de mes frères et sœurs d'Elem, hein, j'ai tout simplement invité. Je ne sais pas depuis combien de temps. Est-ce qu'ils ont déjà entendu mon témoignage ? Où est-ce qu'ils sont là ? Vous avez déjà entendu mon témoignage ? Oui, mais il y a très longtemps alors. Donc rassurez-vous, vous allez découvrir des choses. Et par amitié pour moi, je sais que vous êtes là pour entendre aussi ce qui s'est passé dans ma vie avec un peu plus de détails cette fois. Et je crois qu'il y en aura pour tout le monde parce que personne ne connaît exactement ce que je vais dire aujourd'hui, même mon épouse. Donc, parce que non seulement on oublie les choses, mais il y a parfois des détails qui nous reviennent après tant d'années et que je vais sans doute vous livrer cet après-midi. Heureux aussi que ce soit cette église qui nous invite. Merci à l'église de l'Anversar de nous avoir invités parce que c'est cette église qui est mon berceau de cette nouvelle vie que j'ai reçue de la part du Seigneur. C'est à travers cette église ici, que j'ai commencé à fréquenter en 1962, que j'ai découvert l'Évangile et je suis devenu ce que je suis. Je suis encore heureux aussi, c'est terminé, je n'ai pas d'autre raison, mais j'en ai encore une sixième. C'est parce que lorsque nous rendons témoignage, le Saint-Esprit est sur nous. Le Saint-Esprit nous assiste, le Saint-Esprit nous remplit. Quand nous confessons le nom du Seigneur, quand nous témoignons du Seigneur, le Saint-Esprit agit en nous. D'ailleurs, même les disciples qui avaient été battus de verges se réjouissaient, après cette fameuse histoire, se réjouissaient d'avoir été persécutés pour le nom du Seigneur. Voilà. ce que je voulais vous dire. Donc, entre 14 et 21 ans, je suis devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu, un vrai chrétien, une expression qui peut étonner, parce que je dis vrai chrétien comme seule la vraie parole de Dieu peut le faire. Non pas un chrétien religieux, mais un chrétien qui a reçu les effets sur soi miraculeux de cette puissance de l'Évangile qui est une force, qui est une puissance pour le salut, nous dit la Bible, de quiconque croit. Dès lors que l'on commence à croire et que l'on ouvre son cœur, Dieu peut opérer dans notre âme, à travers elle et à travers son Esprit Saint. D'ailleurs, entre parenthèses, j'aimerais vous dire quand même que croire en Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Même la Bible nous dit que le camp adverse à Dieu, démons, croient aussi en Dieu. Et ils tremblent parce qu'ils savent ce qui les attend. Donc croire en Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, ce que nous avons besoin, c'est de croire Dieu. C'est-à-dire de savoir que s'il y a un Dieu, c'est une personne, il a une parole, il a un message pour nous. Et cette parole, elle ne se trouve pas dans différents livres, mais dans un seul. La Bible, la parole de Dieu. Donc au même pied d'égalité, Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, et Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Fils, la parole et le Saint-Esprit. Attention de ne jamais dissocier ni évaluer l'un par rapport à l'autre. Et vous allez voir qu'à travers les témoignages que nous allons vous donner après-midi, ce sont les quatre éléments qui ont agi dans notre vie. Après s'être repenti, confessé de ses péchés, pris son baptême par immersion, c'est un pléonasme, parce que baptême veut déjà dire immersion. On vient à une nouvelle vie. On renaît à une nouvelle vie. Et la Bible appelle cela une conversion. C'est ce à quoi nous sommes appelés tous. Une réconciliation avec Dieu. Une régénération par le Saint-Esprit. Un engendrement par la semence, parce que la Bible est comparée à une semence que l'on jette en terre, et qui va évidemment pousser, une semence incorruptible. Donc nous avons été engendrés par cette semence incorruptible de la parole de Dieu. Et aussi, notre expression, c'est de recevoir à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu Christ, recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Non pas en tant que personne, voilà, mais en tant que parole. Parce que Jésus également, il agit par sa parole, par son enseignement. Mon origine naturelle est comme la vôtre, corrompue. Jésus dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les mensonges, les calomnies, l'hypocrisie, l'orgueil, l'arrogance, la rébellion, la colère, l'injustice, la vanité, le vol, le viol, les adultères, les meurtres, la débauche. J'ai dépassé la liste de Jésus, mais je suis persuadé que vous pourriez même m'aider. Elle est loin d'être terminée, malheureusement. C'est notre nature que nous avons reçue de nos parents. Voilà la raison fondamentale à cause de laquelle la vie n'est pas bonne dans ce monde. Mais vous aussi, vous pouvez changer de vie. C'est ce que nous souhaiterions et c'est ce que nous vous engageons aussi à travers ces témoignages. Si vous changez de travail, d'habitation, de région, de pays, de statut social, même de religion ou d'idéologie ou même de politique, votre vie peut s'améliorer ou au contraire. Mais vous ne changez pas réellement votre vie parce que votre cœur reste le même. Il faut donc, comme je l'ai vécu moi-même, recevoir de Dieu une autre nature, celle de Jésus. Le Saint-Fils de Dieu est volontairement venu à vous sur cette terre, volontairement donné sa vie en sacrifice, a connu une mort ignoble, une torture, comme vous le savez, pour nous sauver. Troisième jour, il est ressuscité des morts et il est vivant. Et c'est pourquoi il peut agir dans chacun de nos cœurs. Il est vivant pour l'éternité. Je lui ressemble depuis que je suis un chrétien. et je suis appelé à le ressembler de plus en plus, et même plus tard à être rendu complètement semblable à lui, comme la Bible le dit, parce que sa vie est en moi. Et après ma mort, je continuerai à vivre en esprit, selon les promesses de la Bible, et quand Christ reviendra sur cette terre, mon corps ressuscitera en un corps nouveau, spirituel, immortel, incorruptible, mon âme le réintégrera, je serai rendu complètement semblable à Christ, car je le verrai tel qu'il est et je le connaîtrai comme il m'a connu. Je vivrai heureux éternellement, comme tous mes frères et sœurs ici sont présents, sœurs chrétiens, selon la Bible. Et maintenant, je suis un témoin de Jésus-Christ et je vais vous raconter comment c'est arrivé pour moi. Première période, entre 6 et 9 ans, il y a eu 3 actions de Dieu dans ma vie. La première, par la parole. Mes parents fréquentaient une église évangélique. C'était à Lille, Rue Henri Coll, pour ceux qui connaissent ces années-là. Il y avait l'Assemblée de Dieu. Il y avait, hors des réunions, une école pour les enfants. On appelle une école du dimanche, et c'était le soir que mes parents fréquentaient cette église. Et l'un des enseignements sur l'Évangile est resté gravé dans ma mémoire. J'avais, je vous dis, entre 6 ans et 9 ans, je vais avoir 7 ans à peu près, et c'est resté gravé. C'était donc en 55 environ. Sur le tableau, je me souviens, deux chemins, l'un resserré et étroit, un chemin de montagne, un chemin rocailleux, et l'autre, une grande route goudronnée, large et spacieuse. L'issue de l'une, de l'étroit, c'était la vie, et l'issue du chemin large, c'était la perdition, selon l'enseignement de Matthieu, au chapitre 7, versets 13 et 14. Et Jésus nous dit, efforcez-vous de prendre le chemin étroit. Ce que j'ai retenu de cela, c'est, ma réflexion a été, je dois me méfier de ce qui est facile. Deuxième intervention de Dieu dans ma vie, et ça, c'est vraiment l'action du Saint-Esprit. Je me vois encore dans la cuisine de la maison de mes parents. Je me souviens même de la couleur des bois dans cette cuisine. J'étais seul. Et une pensée sur Jésus a surgi, peut-être les conséquences des enseignements reçus. Et je pensais à Jésus et je voyais Jésus comme l'homme parfait, sans défaut, sans péché. Et je ressens en moi une vive admiration pour cet homme, Dieu. Il est le seul parfait et plein d'amour. Et comme je désire au fond de moi-même être comme lui. Et pensant soudain à mes fautes, parce qu'on n'a pas besoin d'être grand pour savoir qu'on est pécheur, je suis triste. Triste parce qu'au fond de moi, je sais que je n'y parviendrai jamais. Troisième événement. Avant la réunion de ces soirées du dimanche soir, à peu près dans le même âge, mon père m'accompagne et nous revenons des toilettes et passons à côté de l'estrade. Et là, il y avait les musiciens, les anciens, le pasteur Lègle, ceux qui connaissent à l'époque, qui était juste avant la réunion. Tout est installé. Et mon père s'arrête, il m'arrête. Et il me dit, je n'ai plus la phrase exacte, je l'ai oubliée, mais je comprends qu'il me voit pasteur quand je serai grand. Je ressens une crainte, je suis trop timide, ce n'est pas pour moi. C'est la seule fois où mon père m'a parlé des choses de Dieu. Et ces choses me sont revenues, comme vous allez vous en rendre compte, après le 8 janvier 69. Ces trois événements sont revenus, c'est ce que je dis maintenant, à ma mémoire justement à ce moment. La deuxième période, donc, de ma vie était une absence totale de référence à Dieu, parce que mes parents ont quitté cette église quand j'avais 9 ans et n'en ont plus fréquenté aucune. Jusqu'à l'âge de 14 ans. Ce sera le silence de Dieu pour moi. Troisième période à 14 ans, entre 14 et 17 ans, Ma mère entre en relation avec une famille chrétienne de mon quartier, quartier Vauban à Lille. Une famille de 10 enfants. Je peux dire leur nom, il y en a ici, les Bettevillers. 10 ou 9, hein, je ne sais plus exactement. D'ailleurs, je me confonds toujours, la famille Pierrot, pareil, je ne sais plus si c'est 9 ou 10. De quoi en faire des copains, hein, parce qu'il y avait une jeune fille exactement de mon âge, un garçon qui était un an, deux ans, en dessous et au-dessus de moi. Donc, en faire des copains, c'était facile. Ils m'invitent, ici, à 14 ans, à leur club de jeunes, à l'église garage, hein, pas ici. Parce qu'évidemment, à l'époque, l'église, c'était le petit garage de M. Pirat, 9 avenue de Saint-Alban, où se trouve maintenant Jean. Et voilà, ça formait un club de jeunes, et je venais tous les samedis. Est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui étaient à ce club entre 62 et 68? Il y en a qui rient dans la salle. Il y a Cécile. Bon, 5 ans d'écart avec Jean, un petit peu quand même, mais Nadine, bien sûr. Cécile, et personne d'autre. Bon, il n'y a plus que deux rescapés. Plus de rescapés. Bref. Je fais une parenthèse pour rendre témoignage à Lucien Pirat, donc le père de Jean, et son épouse, Noëlla, pasteur de l'église à l'époque, pour sa foi. Ça m'a interpellé, l'abandon de son travail avec ses 10 enfants. Je me souviens d'une anecdote où il se trouvait au creux de la vague financièrement, et il a retrouvé, je crois c'était un billet ou quelque chose comme ça, de 50 francs dans sa boîte aux lettres ou en dessous de sa porte. Et ça m'a marqué. Et il a rendu témoignage en disant « Dieu n'abandonne pas ses enfants, j'avais plus d'argent. » Et j'ai trouvé cet argent à ma porte. Donc, sa foi, son dévouement, sa fidélité et son amour aussi pour la parole de Dieu. Tout cela aussi m'a interpellé. Chaque samedi, une réflexion basée sur la Bible après la partie détente. Donc, les premiers temps, je reste à ces réunions par politesse, évidemment. Ça ne m'intéresse pas trop de rester à la deuxième partie. Et puis, des choses se posent dans mon esprit. Si c'était vrai, pourquoi un si petit nombre dans un garage de voiture? Suis-je dans une secte? Un jour, l'une de mes belles-sœurs me dit, parce que j'ai des frères plus vieux que moi, « Laisse tomber ce club, tu es jeune, sors, amuse-toi et ne perds pas ton temps. » Semaine après semaine, cependant, je continue de venir et la personne de Jésus me parle. Sa parole sonne juste et vraie. Je me reconnais pécheur, ayant besoin d'un sauveur. L'enjeu est ultime. La vie éternelle gratuite et tout de suite. Je me sens attiré et le désir aussi d'accepter ce sauveur. Deux états d'esprit alternatifs me font la guerre. C'est cela le vrai bonheur. C'est cela la vraie vie. La vérité, le chemin, la justice, la paix et au bout l'éternité. Deuxième, ne t'enferme pas dans cette prison, dans cette minorité. Finis ta liberté. Aller aux réunions, lire la Bible, prier, se battre avec le mal, au mieux attends d'avoir 60 ans, vis ta vie et assure ton salut juste avant de mourir. Un samedi, nous nous rendons à Douai, je crois, si mes souvenirs sont bons, dans une grande convention de jeunes. Et nous sommes tous bien tassés dans la traction Citroën de M. Pirat, pour ceux qui se rappellent. Le message terminé, l'évangéliste fait un appel. Nous étions donc plusieurs centaines de jeunes. Et mon cœur commence à battre, à être profondément d'abord remué. Et cette force de l'attraction est bien présente. Qui veut, après le message, il demande aux jeunes de se décider pour s'avancer devant l'estrade et s'engager avec le Christ. 20 ou 30 jeunes, ou peut-être un peu plus, je ne sais plus, quittent les gradins et se retrouve en bas, juste devant, devant le podium. Les minutes passent, un combat intérieur s'engage. Je résiste. Ça commence à battre très vite à l'intérieur, plus personne s'avance. Je me sens soulagé. Soudain, l'orateur s'écrie « Je suis convaincu qu'une dernière personne doit venir ici ce soir et il attend. » Les secondes sont interminables. Malgré le recueillement général, je jette un regard furtif partout dans les gradins. Ce n'est pas moi, c'est sûrement un autre. Et j'aspire que quelqu'un se lève. Patience, c'est bientôt fini. Il réitère son appel et il dit « Ce jeune doit venir ici ce soir. » Et au fond de moi, c'est toi. Lève-toi et vas-y. Ma résistance s'affaiblit. Je repasse mes objections. Pas aujourd'hui, une autre fois. J'ai pas envie de me faire remarquer. Que vont penser les autres, Monsieur Pira, ma famille, les jeunes de Lambersart qui restent là sagement assis, pourquoi moi je dois m'avancer? Je sais que c'est moi et je rassemble mes forces, je me lève, j'avance, sans regarder personne, honteux comme un automate. Et là, devant la scène, je me dis vivement que c'est fini. On prie pour moi, on me donnera un évangile, je résiste à tout ce qui se passe. Je regrette presque, bien décidé, en rentrant à n'en parler à personne. C'est ce qui se fera. Quelque temps plus tard, un autre appel pour le baptême a lieu à l'Anversaire Garage. Mon copain, un Bédevillère aussi, toujours, Jean-Luc, est assis juste à mes côtés. Nous nous sommes regardés et on s'est dit, ou on s'est compris, si je lève la main, tu la lèves, si tu la lèves, je la lève. Et elles se sont levées comme un seul homme. Ça aide quand on est deux. J'ai donc pris mon baptême à 16 ans. J'ai ramené la photo. Je ne sais pas si vous désirez la voir maintenant. Je peux vous la laisser. Et la carte aussi d'engagement signée par M. Pira et par moi-même. Ça vous intéresse? Je vous fais confiance, je la garde. Ça fait un bail, hein, puisque 62. 164, je crois. Voilà. Donc, voilà ce qui s'est passé jusque-là. Le combat n'est pas fini. Le diable va utiliser ma passion qui devient incontrôlable pour la musique. En quelques années... Attendez, j'ai besoin des lunettes quand même... C'est ma première raison de vivre. J'entends les sons d'un groupe qui répète derrière chez moi, donc Rue Colbert à Lille. J'y assiste toutes les semaines et bientôt je remplace l'un des guitaristes. Les répétitions ont lieu le dimanche matin et bientôt elles vont remplacer le culte. Les exhortations de M. Pira n'y feront rien. Je sais que ce nouveau chemin est incompatible avec l'autre, mais mon choix est fait. J'efface Dieu. Tout ce qui le concerne, et toutes les semaines, je joue, je répète, je vais dans les bals, je suis libre et je suis dans l'euphorie. Personne ne peut m'arrêter, ni même ma fiancée, connue quelque temps plus tard. Je la mets devant cette obligation, ce sera moi et la musique. On peut dire tout pour la musique. L'euphorie, oui, mais aussi des temps de tristesse et de vide. Très vite, je réalise que ni la musique, ni rien dans ce monde qu'il est possible de faire, d'avoir, de devenir, ne me comblera jamais. Peut-être est-ce dû à cette soif d'absolu qui me caractérise. Je sais au fond de moi que je ne goûterai jamais le vrai bonheur. Ce qui se passe dans ce monde m'afflige. Mon avenir m'angoisse. Parce que ma résolution est prise avec le chanteur du groupe. Dès notre retour du service militaire, nous allons vivre de la musique. Et ça va pas être facile. Nous allons nous perfectionner et commencerons notre carrière. Quelles que soient les conditions, difficile ou non. Au bout de 2 mois de service militaire, j'apprends la mort accidentelle de l'un de mes frères aînés à 37 ans. Brutalement, je réalise que le malheur n'est pas seulement pour les autres. Ceci ajoute à ma tristesse. À 8 mois d'armée, le 8 janvier 69, ça fait donc 48 ans dimanche dernier, il n'était pas loin, nous sommes deux, mon meilleur copain qui est là dans la chambre, une chambre de 6, nous ne sommes que deux, il est en face de moi, et la mort dans l'âme, nous préparons notre désertion. Folle décision, nous le savions, 3 ou 6 mois de plus, nous le risquions, mais c'était comme un défi à cette vie bizarre, comme un cri lancé à je ne sais qui. Soudain, un mot jaillit dans mon esprit, oublié depuis longtemps, Dieu. Et je lance à Michel Fernandez, là qui est en face, assis sur son lit, « Est-ce que tu crois en Dieu ?» Ses yeux s'écarquillent de stupeur, je suis aussi étonné que lui de ce type de conversation que je peux commencer avec lui. Je n'avais jamais eu avec personne. Mais en poursuivant une ou deux minutes, je me sens tellement mieux. Je sens comme un poids qui sort de mon âme, un apaisement, une consolation. Et j'entends qu'il me dit « Arrête-toi, tu me fais peur. Il y a comme un écho dans ta voix. » C'est peut-être psychologique, je ne veux pas dire que c'est un miracle, mais en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Je lui dis « Viens, descends de ton lit, on va se mettre ici, là, devant la fenêtre. » Il me suit et on se retrouve tous les deux à genoux. Et j'ai parlé à Dieu, comme avec un homme. Simplement, j'ai vidé mon cœur. Sans doute, ça devait contenir « Peux-tu me donner ce qui me manque ?» Et la réponse, mes amis, a été foudroyante. Une force vivifiante, débordante, une paix, une joie indicible m'ont inondé. Je riais, je pleurais, un état indescriptible, d'une intensité surhumaine. Rien ici-bas n'est comparable. Et jamais, tout en étant sur le chemin de Dieu, je n'ai revécu un tel moment. La nuit a dû être courte. J'étais libéré de cette passion qui me possédait. Et nous étions une cinquantaine dans cette compagnie de munitions en Allemagne. Et chaque soir, j'allais de chambre en chambre raconter ce que Jésus avait fait pour moi. Dans les 8 mois qui restaient, ils ont découvert un nouvel homme. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, vous savez, comme une branche est attachée au tronc, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ma première lettre envoyée à Eliane a été un tsunami pour elle. Notre amour est éternel, nous ne connaîtrons jamais la mort. Claude François chantait « Notre amour, elle n'aura jamais » et moi je lui disais « On va se marier pour l'éternité ». Avant c'était tout pour la musique et maintenant c'était tout pour Jésus. T'en as pas de chance, hein, cette pauvre femme. Ça n'a pas été facile. Mes futurs beaux-parents ont essayé de la dissuader, et combien on les comprend. De se marier avec moi, à un curé, qui n'avait plus que Jésus à la bouche. Mais nous nous sommes mariés quand même, l'année suivante. J'avais 47 ans dans 2 jours. Les premières années ont été difficiles. Avec le temps, Eliane s'est convertie. Nous avons eu 5 enfants. Enfin, nous les avons encore, d'ailleurs. Et si je suis encore... Si j'étais encore dans mon ancienne vie, je me demande si nous serions encore ensemble. Le retour à Dieu comportait aussi un appel, un choix de Dieu pour... le servir. Le service, c'était tous les soirs de la semaine, le samedi et le dimanche complet. Et le 27 avril 1969, 3 mois après ce soir du 8 janvier, la question ne se posait même pas pour moi. Je répondais spontanément oui, à un appel de service lors d'une réunion spéciale qui a eu lieu près d'ici à Lomprey, dont j'ai la carte ici, vous pouvez la faire passer également. Deux ou trois ans après ma réintégration dans l'Église, M. Lucien Pira a confirmé mon appel à me servir et à devenir pasteur. Alors, je n'ai plus le temps de parler de l'action de la parole de Dieu en tant que serviteur de Dieu, évidemment. Je vais laisser la place à Régine. Je veux simplement dire en conclusion que mon retour à Dieu comporte un événement radical, qu'on y croit ou non, mais qui s'apparente à une révélation miraculeuse. Être ainsi transformé en une fraction de seconde est assez rare, et la Bible apporte la conversion d'un religieux persécuteur des chrétiens, nommé Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, qui est bien plus miraculeux encore. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas la manière qui compte. Que ce soit un coup de foudre ou un changement lent et graduel, mais ce qui compte, c'est la réalité. C'est qu'à un moment, il y a des conséquences qui font qu'on n'est plus la même personne. Il y a un avant et il y a un après. Et si on voulait donner une illustration à ce témoignage, on pourrait parler d'une parabole de Jésus. Il nous dit qu'un père avait deux fils, le plus jeune demande l'héritage, il s'en va très loin, et il dilapide ses biens en essayant de trouver le bonheur. Et dans la détresse, il revient chez son père. Vous imaginez qu'évidemment, cette parabole nous parle de Dieu. Et son père lui dit, voilà celui qui était perdu, qui est retrouvé, celui qui était mort et qui est revenu à la vie, celui qui était loin et qui maintenant se trouve dans la maison. Et j'aimerais vous dire, quel que soit le cheminement que vous allez commencer et que vous avez commencé avec le Seigneur, n'oubliez jamais que Jésus est le berger. Il est aussi la porte, le seul par lequel nous pouvons entrer dans le salut et dans l'éternité. Lui est sa parole, encore une fois, et l'Esprit Saint. Il dit qu'il sort, il est aussi le berger, et qu'il sort les brebis de l'enclos. Alors là, cet enclos peut nous faire penser au peuple d'Israël sous la loi, mais ça peut nous faire penser à différents enclos dans lesquels on peut se retrouver quand on découvre le Christ et sa parole. Ça peut être un enclos religieux, ça peut être un enclos de plaisir, ça peut être un enclos de recherche, je ne sais quoi, mais il y a toujours des enclos pour tout le monde, des espèces de micro-mondes, microcosmes de monde qui forment ce grand monde, et chacun essaye de trouver son bonheur, de trouver la vie dans ce monde. Mais Jésus dit qu'il sort les brebis et elles vont trouver des pâturages et qu'il va devenir leur berger, qu'elles entendent sa voix, qu'elles ne suivront pas un étranger. Et dans ces verts pâturages, nous trouvons aussi cette vie abondante. Si nous respectons l'enseignement du Christ, nous restons dans les pâturages de la parole de Dieu, que nous restons sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu, eh bien, je peux vous dire que ces 48 années ont été merveilleuses et si je devais recommencer ma vie, rien ne changerait. Parce que c'est avec Jésus-Christ que j'ai vécu. Je suis heureux de le connaître, de plus en plus. Heureux d'être avec lui. Et ce que je souhaite pour chacun d'entre vous, eh bien, quelle que soit la manière dont les choses arriveront, que vous puissiez aussi marcher avec Jésus sur un chemin nouveau. Pas trop long, ça va? On va prier, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous nous réjouissons en effet de te connaître. Et à la fois, nous avons aussi des accents de tristesse pour ceux qui sont encore dans les efforts, dans la difficulté pour te trouver, pour surtout pour se soumettre à toi. Seigneur, qui te cherche et qui résiste à cause d'un certain nombre d'idées, de préjugés, ou d'a priori, ou de choses qui les lient encore. Seigneur, je voudrais te prier cet après-midi, afin que ton onction, Seigneur, l'action de ton Saint-Esprit, se manifeste dans cette assemblée, et que tous ensemble, chrétiens ou non, nous soyons vivifiés, attirés par toi. Tu as dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Seigneur, c'est ce que je te demande dans le nom de Jésus. Continue d'agir, de parfaire des conversions qui ne le sont peut-être pas encore, de renouveler ceux qui le sont, de fortifier tes brebis, de les conduire comme tu sais bien le faire. Et Seigneur, nous te demandons aussi ta grâce, là où nous sommes impuissants. Il y a sans doute des problèmes dans la vie de certains et de beaucoup, peut-être d'entre nous tous, des problèmes de santé dans nos familles, des problèmes de difficultés quelconques, d'épreuves. Et nous voudrions, ce soir encore, te dire que nous avons confiance en toi, que nous continuerons à espérer en ton action pour qu'il y ait des changements dans la vie de chacun d'entre nous, de nos familles, de nos églises, pour qu'il y ait des changements radicaux de guérison, de délivrance et de personnes qui vont pouvoir se réjouir et de se dire « Avant, j'étais mort, maintenant, je suis vivant, j'étais perdu et maintenant je suis sauvé. » Oui, merci Seigneur pour cette édification et pour cet appel à la conversion cet après-midi. Fais ton œuvre comme tu le veux, Seigneur. Amen.